Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition du 3 décembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Alors Martin, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Deux nouvelles reliées au système bancaire canadien. D'abord, hier, nouvelle particulièrement importante pour le Québec où la Banque Laurentienne a accepté de se faire acheter en partie par la Banque nationale et par Fairstone Financial. Donc, les activités de détail et de PME vont aller vers la Banque nationale. Les activités commerciales vont aller vers Fairstone. On n'a pas tous les détails, là, je veux dire, on n'a pas lu 100% des détails. Généralement, une acquisition comme celle-là prend quand même plusieurs mois avant de se compléter. Donc, c'est prévu que l'acquisition se complète à la fin de 2026. Donc, c'est une saga là, qui dure depuis quelques années. On se souvient que la banque s'était mise en vente quoi l'année passée, où il y a 18 mois à peu près, ça s'était conclu sans offre d'achat. Et là, ça se règle maintenant. Bien en deçà du sommet historique de la banque, ceci dit, là, l'action a déjà été beaucoup plus élevée. Puis là, ben, la Nationale et Fairstone là, ont un prix quand même qui semble être relativement faible par rapport au sommet historique. Autre nouvelle, ce matin, la Banque Royale, donc ça, beaucoup de nos clients détiennent des actions de la Banque Royale. Laurentienne, pas vraiment beaucoup de gens en détiennent, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Royale, beaucoup en détiennent. Excellent résultat ce matin, des revenus en hausse de 14%, une croissance du dividende de 6,5%. Donc, on se souvient, il y a deux semaines, on a une entreprise là, qui avait coupé son dividende. C'est assez décevant quand ça arrive. Mais il y a aussi des entreprises qui progressent bien puis qui l'augmentent le dividende. Plus souvent, on a des hausses de dividendes que des baisses de dividendes. Donc, overall, là, ça fonctionne bien. Les performances boursières, donc pour le mois de décembre, le TSX, très bonne hausse à 3,8% de hausse pour le mois de novembre. Donc, on est le 2 décembre.
tu fais des prévisions dans le futur, Martin.
Excuse-moi. Donc, pour le mois de novembre, effectivement, le TSX en hausse de 3,8%. C'est surtout le secteur des matériaux. C'est donc les titres orifères. On se souvient, l'or avait atteint un sommet de 4400 le 20 octobre. Puis le 28 octobre, ça avait planté à 3900. Et là, ça l'a remonté à peu près à 4200 par once. Donc, le secteur orifère a suivi durant le mois de novembre, cette tendance-là, et produit là, un très, très fort rendement. Autres secteurs qui ont bien fait au Canada, là, la consommation discrétionnaire, c'est qui ça? C'est les Dollarama, Restaurant Brand, Tim Hortons, là, le Restaurant Brand, et la consommation de base avec les Loblaws, Couche-Tard, là, qui avait eu des très bons résultats financiers, donc surtout ces entreprises-là qui ont bien fait durant le mois. Du côté américain, le marché S&P 500, presque flat, là, en hausse de 0,2%. Du côté des titres technologiques, Nvidia a eu un mois un petit peu plus difficile, les titres d'intelligence artificielle plus difficiles, donc une baisse de 1,4%. MSCI, Europe, Australie, Asie, en hausse de 0,3%. Et notre dollar canadien, légère hausse là, durant le mois. On était au mois d'octobre à 71,34. On est à 71,8 ce matin. Donc, les vacances approchent. Ça va peut-être nous coûter légèrement moins cher pour donner des pourboires aux serveurs durant nos vacances de Noël.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet suggéré par une cliente. Je suis vraiment excitée. C'est comme la première fois que quelqu'un me suggère un sujet, ou peut-être la deuxième. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Sa question, c'était, est-ce que vous pouvez décrire qu'est-ce qui se passe financièrement lorsqu'on décide de vendre sa propriété pour aller vivre en résidence pour personnes âgées. Je trouve que c'est le moment parfait pour avoir cette discussion-là. L'hiver est arrivé, les journées sont plus courtes, on sort moins et parfois les gens commencent à se sentir plus isolés à cette période-ci de l'année. Et c'est souvent à cette période que certains envisagent de faire ce grand changement. Toi et moi, Martin, nous avons accompagné plusieurs clients dans cette transition. On ne l'a jamais fait nous-mêmes. Je l'ai fait avec mon papa l'année passée, mais on a vraiment eu une certaine expérience à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que cette étape suscite beaucoup d'émotions, parfois de la réticence et de la nervosité. Mais une fois bien installés, la majorité nous disent qu'ils sont soulagés et heureux de leur décision. Plus tôt cette année, nous avons parlé avec une grande amie à moi, Jennifer Madar, de la compagnie Vis-à-vis. Elle est conseillère en hébergement pour les aînés. Donc, si l'aspect magasinage pour une résidence vous intéresse, vous pouvez écouter cet épisode. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur l'aspect financier de ce changement.
Ouais.
Donc, Martin, concrètement, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que nos clients vivent, qu'est-ce qu'ils nous racontent lorsqu'ils vendent leur propriété pour aller en résidence?
J'ai l'impression des fois qu'ils se sentent comme des alpinistes à la veille d'escalader le Mont Everest. T'sais. Ils regardent la montagne puis elle a l'air tellement haute que se disent « Ah, j'y arriverai jamais ». Mais l'escalade du Mont Everest se fait en faisant un premier pas. Donc, tu sais, il faut pas regarder le sommet de la montagne, il faut juste regarder le pas en avant. Donc, juste y aller tranquillement, pas vite. Donc, d'abord, faut mettre la maison en vente. Ben ça implique d'abord de probablement rencontrer un ou des conseillers courtiers immobiliers de confiance, demander des références, demandez-nous des références, demandez à vos proches des références. C'est important de trouver, moi je trouve la qualité première pour quelqu'un là, dans cette étape-là, on veut un conseiller immobilier qui va respecter votre rythme. Okay? Donc, c'est une étape bouleversante pour les gens là, de vendre la maison familiale pour aller en RPA. On ne veut certainement pas avoir un courtier qui vous pousse dans le dos à accepter la première offre, puis vite, 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 là, tu sais, calmez-vous, allez-y à votre rythme. C'est important. On voit aussi des gens là, qui disent « Ah, oh, là, faut que je répare ci, faut que je fasse ça, faut que je rénove. » Parlez au courtier avant. Il va vous dire si ça vaut la peine de faire ou non des trucs. Donc, ce sont des professionnels, ils connaissent leur marché. Ils vont vous dire qu'est-ce qui serait nécessaire de faire pour bien préparer la maison, pour présenter la maison, comment fixer le prix, c'est quoi les stratégies. Donc, on se souvient, il y a eu des périodes d'offres multiples, d'autres fois, c'est autre chose. Donc, tu sais, parler à un courtier qui est expérimenté là-dedans. Nous, on n'a pas cette expertise-là. On n'est pas courtier immobilier. Donc, c'est chacun son carré de sable, si on veut.
Bien, puis une chose que je recommande, puis même peut-être avant de mettre la maison en vente ou avant de rencontrer le courtier immobilier, je sais que plusieurs clients l'ont fait. Ils ont commencé à magasiner des résidences. Ouais. Vous pouvez utiliser quelqu'un comme Jennifer pour vous aider. Eux, ils ont vraiment, ces gens-là ont vraiment une certaine connaissance des résidences disponibles, des services qui sont disponibles. Mais ça va vous donner une idée de où vous voulez être et vous rassurer aussi dans le processus. Vous pouvez voir les différentes activités et si vous vous sentez vraiment chez vous. Donc, je pense que ça limite rencontrer quelqu'un de confiance et faire un peu le tour. Ouais. Ça limite l'anxiété de ce grand changement-là.
Tu peux faire les deux en parallèle, effectivement. Oui. Avant, il faut commencer à préparer pour vendre puis en même temps chercher, ben, je m'en vais où avec ça? Là. Puis appelez-nous, on peut créer des scénarios, si vous avez rencontré le conseiller et puis on pourrait vendre à peu près pour tant, puis là, oh, ben, on a magasiné le loyer. C'est des trucs là, qu'on peut vous aider.
Absolument. On veut vous entendre puis on veut être là avec vous. Justement, peut-être, tu touchais un peu à cette question-là. Comment est-ce qu'on peut aider à cette étape-là concrètement?
Donc, on va vous mettre à jour ou faire un plan de décaissement. Donc, on veut déterminer combien on va devoir retirer de quelle source de portefeuille, quelles sont vos différentes sources de revenus, puis à quel rythme on peut couvrir les besoins sans ou en compromettant le capital, là, ça dépend. Là. Il y a des gens qui vont utiliser le capital de la maison au fil des années pour payer le loyer. D'autres veulent préserver le capital de la maison, utiliser seulement les revenus. Nous, on n'est pas là pour imposer des objectifs. On est là pour trouver une stratégie qui permet de rencontrer les objectifs que vous nous donnez. Donc, on va aussi faire une planification successorale si on se rend compte que on va devoir utiliser une portion du capital. Peut-être, ben, ça va nous permettre d'illustrer, si on illustre sur 10, 15, 20 ans, les dépenses. Avec la hausse des dépenses, on sait que les loyers ont tendance à augmenter à chaque année. Il va rester combien au décès? Donc, entre guillemets, là, on vous fait mourir à quelques fois pour mesurer quel est l'impôt à payer au décès et combien il reste dans la succession après le décès.
Puis, une portion clé à ces deux exercices-là, c'est vraiment de prévoir ou de projeter le budget. Donc, on en a déjà parlé sur le balado. Il y a plusieurs clients qui n'ont pas de budget, mais je pense que quand on fait le transfert pour aller en résidence, ça vaut la peine de vraiment faire cet exercice-là. Et là, ça nous permet de mesurer l'impact sur votre patrimoine à long terme de cette décision-là.
Puis les gens réalisent pas que, bon, j'ai une maison payée, ben, elle me coûte rien. C'est pas tout à fait vrai, tu sais. Il y a des taxes, il y a du chauffage, il y a de l'entretien, le déneigement et tout ça. L'électricité, le vidéotron. Quand je suis en résidence, ben, souvent, c'est tous des frais. Ça, c'est inclus dans le loyer. Fait que, tu sais, quand on fait notre budget, finalement, c'est peut-être pas si cher que ça, là. Quand on élimine les coûts qu'on aurait pu à payer pour la maison, on calcule le loyer, les revenus de placement. C'est souvent, là, ça laisse beaucoup plus d'espace que les gens pensent.
Bien, puis ça a un coût émotif aussi, hein. Ouais. Ça a un coût psychologique, avoir une maison. Il faut penser à ces choses-là. Il faut les planifier. Vous allez aussi le savoir le bon moment. Donc, sentez-vous pas poussé vers cette décision-là, mais vous allez le sentir, vous allez dire « Ah, ça y est, ça me tente plus de gérer le déneigeur. »
Je me souviens d'une dame là, qui a eu, tu sais, malchanceuse, là, refoulement d'égout dans le sous-sol. Quelques mois après, un arbre s'écrase sur son balcon. Tu sais, elle était juste comme plus capable de gérer des rénovations. Tu sais, ça ne tentait plus de le faire. À un moment donné, il y a ça aussi là, qui vient en ligne de compte.
Absolument. Et là, une fois que la propriété est vendue et l'argent déposé, et je pense que c'est la partie que les gens se questionnent le plus, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, donc on va mettre un portefeuille en place adapté à votre réalité. Donc, selon les objectifs, souvent, c'est pas nécessairement toujours le cas, mais des fois, les clients disent « Ah, ça, tu sais, c'était de la maison, j'avais une impression de sécurité parce que la valeur de la maison est entre guillemets garantie. » Là, les gens ont une perception que l'argent dans l'immobilier, c'est sans risque. Donc, j'aimerais ça que mon portefeuille soit moins risqué. Puis ça, on est capable d'adapter un portefeuille en conséquence. On va vous générer des revenus pour payer le loyer. Donc, on peut automatiser à tous les mois un dépôt dans votre compte de banque pour que ça paye, ça couvre votre loyer. On va souvent aussi mettre de côté, donc structurer le portefeuille, entre guillemets, pour qu'on n'ait jamais à vendre quelque chose. C'est ça, je dis ça entre guillemets parce que c'est pas toujours automatique, là, mais on veut surtout trouver une façon que le portefeuille roule de lui-même, puis qu'à chaque année, par exemple, j'ai un montant qui vient échéance, puis là, je suis pas pris à essayer de vendre dans un contexte parfois qui peut être difficile. Donc, je veux que le portefeuille là, génère des revenus le plus possible, puis que j'ai jamais de risque, là, que mon revenu, mon retrait mensuel proviennent d'un placement sans risque ou au moins les 12-18 prochains mois.
C'est ça. Donc, il peut avoir la partie qui est un petit peu plus à risque, qui continue à évoluer, puis on garde un silo de garantie. Souvent, la question pour les clients, surtout les clients qui ont déjà un REER, peut-être qu'ils ont déjà un CELI, puis ils se disent, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je pense à cette question-là est reliée vraiment à bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la fiscalité? Puis qu'est-ce qu'on fait quand notre CELI est plein puis notre REER est plein?
Oui, on investit tout simplement dans un compte non enregistré. Donc là, on parle un compte comptant, un compte marge, un compte cash, un compte non enregistré. C'est toute la même affaire. Là. C'est tous des termes interchangeables. Essentiellement, si vous avez un REER puis vous avez un portefeuille dans votre REER, là, on fait, mettons, la même affaire dans un compte à l'extérieur du REER. Par contre, on va, étant donné que le compte, les revenus de placement seront imposables, bien, on va faire peut-être des choix un petit peu différents. On va essayer d'aller chercher des placements qui sont fiscalement un peu plus efficaces pour minimiser l'impôt le plus possible sur les revenus de placement. Ça peut prendre toutes sortes de formes. On peut favoriser le dividende par rapport à l'intérêt. On peut choisir des fonds communs de placement de série T, par exemple, pour automatiser des retraits. Donc, il y a toutes sortes de produits qui existent. Et puis, il n'y a pas de solution universelle. Ce n'est pas un one size fits all, là, puis tout le monde a la même affaire. Là. C'est chaque client a son portefeuille. Puis oui, on a une recette de base, là. On a des modèles de base. Par contre, on va venir personnaliser selon les préférences de chacun puis les objectifs de chacun.
Donc, on va vraiment maximiser le CELI en premier.
Évidemment.
Si on est capable. Puis ensuite, dans un compte non enregistré, donc pas CELI, pas REER, et maximiser au plus la fiscalité dans notre choix de placement.
Ouais.
Avant de conclure, j'aimerais qu'on réponde à quelques questions fréquentes. Quels sont les coûts moyens d'une résidence pour aînés? Quels critères financiers faut-il considérer avant de choisir une résidence? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux ou crédits d'impôt pour les aînés en résidence? Et finalement, comment planifier pour cette décision n'affecte pas la succession?
Ben, le coût moyen d'une résidence pour aînés au Québec, là, on parle entre 2 000 à 6 000 $. Ça peut être un petit peu plus, là, si on est vraiment en perte d'autonomie, puis on veut, tu sais, la totale, là, la résidence la plus dispendieuse. Mais ce qu'on voit beaucoup pour nos clients, 2 500, 3 000 dans ces eaux-là, et quelque chose de très bien. Quand on rentre dans le 4, 5, 6 000, généralement, là, il y a des services de santé reliés à ça.
Et poser des questions quand vous allez visiter. Puis c'est pour ça que c'est utile de faire affaire avec quelqu'un qui est conseiller en hébergement.
Ouais.
C'est que ces personnes-là peuvent vraiment vous dire, OK, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Est-ce qu'il y a de la possibilité aussi d'évoluer dans la résidence?
Ouais.
Donc, si je commence, puis je suis en santé, puis je suis autonome, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir d'autres services et combien ça va coûter
Ouais.
aussi?
La deuxième question, là, les critères financiers à considérer. Évidemment, c'est quoi votre budget? C'est quoi vos revenus récurrents? Puis il faut prévoir une marge pour les imprévus, là. Il y a des hausses, là. C'est généralement la hausse est un petit peu plus que l'inflation aussi, particulièrement si c'est pas juste non plus la hausse du loyer reliée à l'inflation, mais la hausse des coûts reliés à ma santé qui peut se détériorer, qui requiert plus de services. Donc, il faut se laisser une certaine marge de manœuvre sur ça aussi.
Puis ça, c'est un bon point. Puis j'ai une histoire reliée à ça avec mon père récemment. Puis ça, c'est Vancouver. Fait que c'est autre chose. C'est beaucoup plus cher là-bas. Mais il parlait de peut-être le passer d'un niveau à un autre niveau. Il a quand même besoin de beaucoup de services. Mon papa, c'était quand même 2 000 $ de plus par mois. Fait que je pense pas que c'est ça au
Ouais.
Québec, mais prévoir une
Je
marge
pense qu'il
de
disait juste, ah, c'est juste 70 $ par jour.
manœuvre.
Là, t'as, OK, mais il y en a 30 jours dans le mois, hein, fait que
C'est
ça
ça.
revient cher.
Fait que vraiment le prévoir, je pense que c'est un bon point, Martin.
Ouais. Puis, est-ce qu'il existe des crédits d'impôt pour maintien à domicile? Alors, oui, le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. C'est un crédit d'impôt là, qui est en fonction des dépenses qui aident à rester à domicile. On n'est pas obligé d'être inapte non plus, là. C'est vraiment, dès qu'on a 70 ans et plus, on est éligible à ce crédit-là. La résidence va vous dire là, dans la portion du paiement, ben, quel montant de ça est éligible au crédit. Ben, ce n'est pas le loyer complet. La portion du loyer qui est juste pour votre résidence, là, ça donne pas droit au crédit. C'est tous les autres services connexes qui sont souvent inclus dans le loyer, mais la résidence va vous les détailler. Puis il y a moyen de l'obtenir de façon anticipée, c'est-à-dire de recevoir le crédit par mois. Donc ça vient, mettons, j'ai un loyer de 2 500, puis je reçois 300 $ de crédit, mais mon loyer net, il est juste 2 200, j'ai 300 pièces de crédit qui peut rentrer là, à chaque mois dans mon compte de banque pour couvrir une partie du loyer. Donc, il y a évidemment les crédits pour frais médicaux, puis tout ça. Donc, il y a tout un paquet de crédits et ce sont des crédits remboursables. Ça veut dire quoi? On y a touché la semaine passée. Donc, un crédit remboursable, c'est que même si en fonction de mes revenus, je n'ai pas d'impôt à payer, je vais quand même recevoir le crédit d'impôt à chaque mois là, par rapport à ces dépenses-là. Puis comment on peut faire pour que cette décision-là n'affecte pas trop la succession? Ben, c'est en nous laissant faire pour vous le plan de décaissement et la planification successorale, puis en choisissant des placements. Donc, oui, des fois, on va être prudent, mais l'excès de prudence aussi fait que si je ne génère pas un rendement supérieur à l'inflation nette d'impôts, ben, je m'appauvris au fil du temps. Donc, peut-être que de conserver un certain niveau de risque, puis là, je dis risque de façon assez large, là, tu sais, d'avoir une portion, par exemple, en action de 20-30 %, ça dépend de votre profil, là, ça pourrait être tout à fait pertinent pour maintenir la succession à long terme.
Oui, ben merci beaucoup, Martin. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Si vous envisagez de vendre votre propriété pour aller en résidence, le message, c'est contactez-nous. Nous allons vous accompagner à travers tout le processus pour cette transition. Ne vous fasse pas trop de peine et d'anxiété et que ça se fasse en douceur. À nos clients et partenaires, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur vos objectifs financiers, contactez-nous, Laurie, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes là pour vous aider. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.